simplement pour vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que, en fait, vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital!
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Régors, chaque semaine sur les Côtes d'Igarigue, Montpellier, Canal Sud à Toulouse. Et bien évidemment, Radio Primitive sur Reims, où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste.
Une réunion publique à l'initiative du courant de lutte transsyndicale et interprofessionnelle, ne tournons pas la page, qui dans l'union locale CGT du 18e arrondissement à Paris, ce lundi 20 janvier, avait invité Baptiste Giraud, chercheur en sciences politiques, pour parler de son livre « Réapprendre à faire grève ». Malgré ce que le titre pourrait laisser entendre, il ne s'agit pas d'un manuel professoral pour faire la grève, mais d'interroger les obstacles et les difficultés rencontrées autour du travail syndical, d'organisation et d'apprentissage de la grève. Par extension, cela permettra d'interroger les possibilités de la grève et sa généralisation souhaitée. Après tout, alors que le droit de grève est sans cesse attaqué, rendant plus compliqué son exercice, et que les stratégies syndicales sont questionnées, n'y a-t-il pas lieu de s'interroger aussi sur ce qui sous-tend les grèves, sur leurs modalités? C'est ce que nous vous proposons d'entendre ici, et nous commençons sans plus attendre l'émission avec une présentation de « Ne tournons pas la page ». Bonne écoute.
Notre petite structure, elle est née à la fin du conflit des retraites de 2023, en mai, sur la base d'une interpellation des directions syndicales nationales de la CGT FO Solidaire FSU qui s'appelait « Ne tournez pas la page ». Et donc ce texte avait été initié en partie par les soutiens à la grève des travailleurs des incinérateurs d'Issy-les-Moulineaux, qui a duré 40 jours. Mais tout de suite, ce texte a pris une ampleur nationale et des signatures venant de toute la France. Et donc ce texte initial qui nous avait lancé, il se concluait par deux revendications qui étaient, un, que les directions syndicales cessent toute rencontre avec Macron et ses ministres, et deuxième revendication, appeler à la grève générale, l'organiser, la financer. Donc on évaluera si ces revendications sont d'actualité ou si elles sont un peu dépassées aujourd'hui. Donc ce texte il avait été signé par plus de 500 syndicalistes et activistes et envoyé à ces directions qui nous avaient diversement répondu, mais qui avaient répondu quand même, on pourra discuter dans le tour de discussion. La lutte des retraites, elle a été achevée en juin 2023, du coup, puis est venu l'été. Et donc tout ce qu'on avait fait pour maintenir la continuité et comprendre ce qu'on venait de vivre, qui était quand même le plus long conflit social de l'histoire de France, on a animé tous les dimanches de l'été des pique-niques de formation sur les luttes de 36, 45, 68, le bilan des luttes retraites de 95-2023, le syndicalisme lycéen, le syndicalisme européen. En tout, on a fait 13 sessions tout l'été de formation pique-nique. Donc, c'est l'occasion de faire des trucs conviviaux et discuter un peu politique ou politique syndicale. Cet été-là aussi, on avait fait un truc sur le suivi des grèves. On avait fait un truc qui s'appelait la lutte des glaces, parce que c'était les vacances d'été, tout ça. Donc, on avait chaque jour un poste pour dire il y a eu telle grève, telle grève, telle grève. Donc, tout l'été 2023, il y a eu plein de grèves. On a essayé de suivre ça. À la rentrée 2023, donc septembre, donc au 1er septembre, la réforme Borne s'appliquait. Et il n'y a eu aucune déclaration, rien du tout de la part des directions syndicales. Et nous, on a quand même essayé de mobiliser sur les attaques contre les retraites complémentaires Agirc-Arrco. Mais ça n'a pas vraiment pris, notamment parce que les directions syndicales n'en ont absolument pas parlé. Elles ont fait des réunions à huis clos avec le patronat et le gouvernement, ce qui là aussi résonne avec ce qu'on vit aujourd'hui, et n'ont évidemment pas appelé à la grève. On a fait ça en septembre-octobre. De octobre à décembre 2023, on a fait un tour de France en 8 étapes pour rencontrer des équipes militantes qui participaient à la grève des retraites, donc à Dijon, Marseille, Saint-Nazaire, Quimper, Angers, Rennes, Nantes et Loches. Et c'était l'idée effectivement de structurer un courant de lutte interprofessionnel et transsyndical. On travaille à ça en tout cas. Ça c'était de l'année 2023. 2024, on commençait par des rencontres nationales en février. On s'est permis d'adopter un certain nombre de textes et on a verbalisé l'idée que les batailles de demain se préparent aujourd'hui. Ou même se gagne aujourd'hui, c'est un peu ça notre élan, ce qui a donné lieu en fait à plusieurs tracts où on a fait de la veille sur les attaques en préparation. Donc il y avait des projets en janvier 2024 de simplification du code du travail, toujours d'actualité, la chasse aux chômeurs, toujours d'actualité, attaque contre les retraites et le reste de la sécu, toujours d'actu, la loi Guérini pour détruire le statut de fonctionnaire, toujours d'actualité, les coupes budgétaires, la remise en cause du droit de grève. Donc bon, tout ça, ça n'a pas changé depuis un an et demi, quoi. C'est toujours les mêmes attaques qui sont en cours ou à venir. Donc effectivement, les batailles de demain se gagnent aujourd'hui, c'est l'idée qu'il faut se préparer, anticiper, comprendre, mobiliser nos collègues, nos voisins, etc., avant que l'adversaire commence à concrétiser les attaques, parce que quand on est déjà attaqué, c'est trop tard, quoi. Donc comment est-ce qu'on fait pour un peu anticiper et préparer nos confrères, consoeurs pour les luttes, quoi. Donc on a fait beaucoup ça. On a écrit un tract à distribuer sur les piquets de grève, qui s'intitulait « Pour les salaires décents, soutien à toutes les grèves pour gagner tous ensemble ». Je disais, c'est aussi qu'on aille sur les piquets de grève pour soutenir les travailleurs en lutte. Et donc un petit mot sur les retraites. Ce qui est intéressant quand même, c'est qu'entre juin 2023 et juin 2024, plus personne n'a parlé des retraites au niveau syndical, politique, de gauche et de droite. Il n'y a eu plus un mot sur les retraites, ça a disparu des radars. Et ce qui est intéressant, c'est que du fait de la dissolution de l'Assemblée nationale et des élections législatives, là, l'action des retraites est revenue sur le devant de la scène. Et donc, tout le monde en a parlé, de l'extrême gauche à l'extrême droite. Tout le monde avait un avis dessus. Mais y compris la presse patronale, enfin, vraiment, il y a eu beaucoup, beaucoup d'articles dans la presse depuis, donc, du coup, juin 2023. 4, c'est ça, donc depuis 6 mois. Donc voilà, donc l'action des retraites est revenue en force, et là elle est d'autant plus que maintenant donc Bayrou lance un conclave, donc spécial retraite, et c'est vraiment l'action des retraites, c'est vraiment le... Je sais pas si vous vous souvenez, mais la veille de la nomination de Barnier, je crois que c'était le 1er septembre, il disait « il nous faut un ministre qui soit... qui va... pas chier sur la question des retraites », c'est un peu ça, il fallait le bon ministre pour bien avancer sur les retraites, et là on se rend compte que le plus gros chantier de Bayrou, c'est aussi les retraites, quoi. Donc vraiment, ce sont des retraites, c'est pas question qui est secondaire, et alors je sais pas si vous avez vu, en 10 jours, on a eu le droit à prise de position pour la retraite à 65 ans, le retour de la retraite par points, proposé notamment par la CFTC, mais souvent par d'autres secteurs, j'ai pas eu le temps de tout suivre, et le MEDEF dit retraite par capitalisation. Donc les projets sont quand même très très précis, et les directions syndicales, elles, effectivement, s'enferment avec le patronat et les représentants de l'État pour discuter de tout ça. Donc il y a vraiment cette question de... Enfin, le conclave, en plus, c'est vraiment un truc religieux pour élire le pape, quoi. Mais c'est un truc à huis clos, quoi. Donc il y a vraiment cet aspect... bon, voilà. Enfin, bon, Bayrou, il vient de la démocratie chrétienne, donc il a tout ce bagage-là, quoi. Mais c'est quand même ce truc, comment se dit que les directions syndicales acceptent un cadre aussi pourri, quoi. Pour reprendre le fil de nos activités, depuis septembre 2024, on a mené plusieurs choses en parallèle. On continue de rédiger, distribuer des tracts pour faire connaître nos positions. On a ouvert un blog sur Mediapart, dans lequel on essaye d'avoir deux chroniques régulières. Un sur les projets d'attaque sur les retraites, on peut voir mois par mois, donc moi je fais le suivi, les échos, donc on voit tous les mois les échos, ce qu'ils racontent sur les retraites, c'est extrêmement enrichissant, je vous invite à aller voir cette petite synthèse, et on fait chaque mois un bilan des grèves. Et on se rend compte que depuis septembre, on a passé une chronique qui faisait 4 pages, à 6 pages, à 8 pages, à 10 pages, donc notre chronique est de plus en plus longue. Alors je ne sais pas si on est mieux renseigné ou si le nombre de grèves augmente en France, mais en tout cas la chronique, elle est devenue très longue sur juste les grèves en France, il y en a énormément aujourd'hui, quoi. Et on fait des réunions publiques avec des auteurs sur des thèmes qui nous semblent centraux. Et donc, on a fait une première réunion à la Bourse du Travail le 26 novembre avec les auteurs de La haine des fonctionnaires, ce qui nous a permis d'éclairer les projets de destruction du statut de fonctionnaire et service public. Ça, c'était il y a, du coup, 2 mois, ça, 26 décembre, un mois et demi. Et donc là, c'est notre deuxième session avec un universitaire, donc Baptiste Giraud, qui est sur ma gauche, et donc qu'on accueille dans l'Union Locale CGT du 18e. Donc, je ne sais pas si vous êtes déjà venu ici, moi, c'est la première fois, mais je tiens quand même à... Bon, ils sont pas là, l'UL du 18e, a priori, mais je suis quand même à l'air remercier, et vraiment, en fait, cette réunion ne peut pas avoir lieu si les syndicats n'existent pas. Nous, on a un discours politique de critique des directions syndicales nationales, mais on n'a pas un discours anti-syndical. Nous, on pense vraiment qu'il faut se syndiquer, il faut se réapproprier nos syndicats et faire vivre les unions locales qui reposent sur peu de personnes, là. Donc, voilà, donc un grand merci. Voilà, donc, ça aussi un appel à se syndiquer. Et donc, pour introduire Baptiste, mais il le fera mieux lui-même, quoi. Donc il a publié, donc à la rentrée de septembre 2024, au PUF, donc c'est les presses universitaires de France, donc réapprendre à faire grève. Et donc il a immédiatement répondu positivement à notre demande, donc on le remercie énormément pour sa présence ce soir. Et donc je commence avec une question un peu polémique, pour ça permettra un peu de problématiser notre discussion ce soir. En fait, on a eu un débat au sein de Ne tournons pas la page, en disant, mais est-ce que vraiment on va inviter un universitaire qui sort un bouquin qui s'appelle « Réapprendre à faire grève » ? Parce qu'en fait, nous, on est des syndicalistes, donc nous, on sait faire grève. Et pour qui se prend cet universitaire pour nous expliquer, à nous les militants, que un peu comment est-ce qu'on fait pour faire des grèves, quoi. Donc du coup, on a eu un débat quand même en disant, mais c'est quoi ce bouquin ? Est-ce que c'est pertinent ou pas ? Et on a tranché en disant, mais il faut qu'on l'invite pour qu'on juge sur pièce, quoi. Donc je laisse la parole à Baptiste pour effectivement se présenter et puis présenter un peu son bouquin, quoi.
Bonsoir, merci. Merci pour l'invitation et bonsoir à toutes et tous. Donc pour me présenter rapidement, moi je suis maître de conférence en sciences politiques. Aujourd'hui à l'université d'Aix-Marseille, je suis moi-même syndiqué, même si je fais moi-même grève en tant que travailleur de l'enseignement supérieur et de la recherche. Mais tout l'objet du bouquin justement, c'est de déconstruire l'idée selon laquelle il y aurait une recette. En fait, fondamentalement, c'est ça le bouquin. C'est de déconstruire l'idée selon laquelle il y aurait une recette, un bouton sur lequel il suffirait d'appuyer pour que la grève s'organise. Un des fils conducteurs du bouquin, c'est plutôt de mettre l'accent sur ce que j'appelais le caractère contingent, c'est-à-dire les modalités variables de la possibilité et des modalités possibles d'organisation de la grève. Faire grève dans le secteur du commerce et des services qui sont mes terrains d'enquête n'a pas grand-chose à voir avec faire grève lorsqu'on est cheminot, agent de l'EDF ou enseignant-chercheur comme moi avec un statut très protecteur de l'emploi, une grande autonomie au travail, pas de hiérarchie ou presque. Donc c'est pas très coûteux, pas très risqué pour moi de se mettre en grève. Il en va tout autrement pour les salariés et les travailleuses, surtout puisqu'il s'agit beaucoup de femmes, qui se mettent en grève. Donc l'idée est absolument pas de dire voilà ce qu'il faudrait faire, voilà ce que devraient faire les militants ou les directions. Soit on peut y voir un risque de cultiver une forme de défaitisme, parce que les obstacles sont nombreux. Mais de l'autre côté, on peut aussi, et c'est le parti pris de mon livre, lister ou en tout cas analyser les obstacles qui se font jour pour montrer qu'il y a des obstacles organisationnels qui tiennent en particulier à la structure du syndicalisme. Tu as commencé juste à en dire un mot, effectivement, le fait qu'il y ait si peu de permanents dans l'animation des unions locales est l'un des principaux obstacles, à mes yeux, au développement des grèves dans des secteurs dépourvus de présence syndicale ou dotés de présence syndicale très faible. Et ce n'est pas la faute des militants qui y sont impliqués, mais il y a plein de contraintes structurelles qui empêche le développement du syndicalisme, et bien identifier des ajustements, les contradictions auxquelles font face les syndicats, et notamment un syndicat comme celui de la CGT, qui se revendique être un syndicalisme de lutte, mais qui, à la fois, exactement de la même manière que tu l'as expliqué, à la fois, sans cette organisation, des grèves, il n'y en aurait quasiment pas. Elle les rend possibles. Et en même temps, elle est mal organisée. Les structures de l'organisation ne facilitent pas, c'est un euphémisme, le développement des grèves dans ces secteurs. Et donc, identifier ces obstacles organisationnels à la grève, c'est pas du tout pour moi jeter un haro sur les directions syndicales, c'est pas du tout l'objectif, c'est de contribuer à un débat, de contribuer à accroître peut-être, c'est déjà notre objectif en règle générale quand on fait des enquêtes sociologiques, la réflexivité des acteurs sur leurs pratiques pour identifier des leviers possibles justement sur lesquels on peut agir et donc combattre le risque de fatalité et de résignation. Mais avant d'aller là, je vais aussi rebondir sur ton introduction parce que ce bouquin, donc, il repose sur une enquête vieille maintenant pour moi. Elle a 20 ans que j'ai menée pendant mon enquête doctorale, à un moment où je résidais à Paris. Et donc, mon terrain est parisien. Il porte sur 2 ans de suivi du travail de l'Union syndicale du commerce et des services de la CGT dans l'accompagnement des militants d'entreprise, dans le travail de formation de ces militants et dans le soutien qui leur est apporté pour organiser et tenir les grèves lorsqu'elles se déclenchent dans ce secteur. Pour moi, le conflit de 2023, il posait toutes les contradictions qui caractérisent aujourd'hui le syndicalisme français et le syndicalisme qui se revendique comme un syndicalisme de lutte en particulier. D'un côté, parce que tu l'as dit, c'est effectivement une mobilisation qui a pu surprendre par son ampleur, parce que rappelez-vous, 3 ans auparavant, 2019, tout le monde enterrait les syndicats, tout le monde interprétait l'émergence des mouvements des Gilets jaunes comme justement un symptôme un révélateur de l'affaiblissement des syndicats, ce qui est vrai, pour partie, puisque cette mobilisation s'est construite en dehors, ou en grande partie en dehors, de la médiation des organisations syndicales, ce qui ne veut pas dire en dehors des militants syndicaux, c'est autre chose, parce que les enquêtes dont on dispose maintenant permettent de repérer qu'il y avait des militants locaux qui étaient investis, qu'en fait, c'est très difficile d'avoir un discours général sur les gilets jaunes, les configurations territoriales ont beaucoup joué. Ça faisait longtemps que beaucoup de militants ont pointé ça, la difficulté des organisations syndicales à organiser les travailleurs les plus précarisés sur le marché du travail. Et en même temps, 2023 a rappelé la force des organisations syndicales. Si on regarde juste d'un point de vue quantitatif, il n'y a pas photo entre l'ampleur de la mobilisation de 2023 et celle des gilets jaunes. Les organisations syndicales, tout affaiblies qu'elles sont, et Dieu sait que les symptômes de crise sont nombreux, restent la principale force aujourd'hui de mobilisation, sans doute. Peut-être qu'il y a les marges du climat, mais sinon, c'est le seul espace, les seules organisations qui sont en capacité à mettre en mouvement plusieurs millions de personnes. Et ce, en plus, sur une période qui a duré et qui a pu surprendre par sa durée. Donc, d'un côté, il y a eu un rappel de la capacité de l'ancrage militant que conservent les organisations syndicales. Et de l'autre, en même temps, la morphologie de la mobilisation, elle a illustré à la fois le déclin de la grève. Parce que ce qui a caractérisé cette mobilisation, c'est la force des manifestations, mais la faiblesse des grèves, y compris dans des secteurs habitués à connaître les grèves, donc y compris à Marseille, dans la pétrochimie, sur les ports, il n'y a pas eu d'arrêt de production, etc. Il y a eu une tentative, peut-être timide, peut-être tout ce qu'on veut, etc., des directions syndicales d'appeler mettre la France à l'arrêt, bon, qui a échoué. Et puis, au-delà de cette dimension, alors, c'est pas très surprenant, ça va plutôt, j'allais dire, on peut le dire malheureusement ici, dans la tendance repérée par les statistiques depuis une trentaine d'années, c'est-à-dire une baisse de l'intensité des grèves qui est objectivée par toutes les enquêtes statistiques. Il y a des regains ponctuels, mais la tendance lourde, et elle est lourde, c'est la baisse de l'intensité des grèves. Et elle se matérialise en particulier dans ces journées d'action ou dans ces mouvements reconductibles, peu importe. C'est-à-dire que la modalité d'action privilégiée, celle qui mobilise le plus, c'est clairement aujourd'hui la manifestation plutôt que la grève. Et c'est d'autant plus vrai pour les secteurs qui m'intéressent plus particulièrement, le secteur de ce que j'appelle dans le livre les nouveaux prolétaires des services, les nouvelles classes populaires, les ouvriers, les employés qui travaillent aujourd'hui massivement, justement, précisément pas dans les ports et docks, précisément pas dans l'industrie pétrochimique, mais dans le secteur des services, des commerces, de la logistique, etc., qui, je pense qu'ici tout le monde en est convaincu, seront les premiers à pâtir des réformes des retraites, même si on est évidemment tous concernés, mais c'est eux qui exercent les métiers les plus pénibles. Surtout, ce qui me frappe, c'est lorsque je me retrouve avec des enquêtés qui ont mon âge, de voir à quel point eux sont abîmés par le travail beaucoup plus que je ne le suis. Ça me renvoie sur un paradoxe assez classique pour la sociologie politique, pour la sociologie des mouvements sociaux, qui est de là d'où je viens, j'allais dire d'un point de vue académique. C'est-à-dire, pourquoi est-ce toujours ceux qui auraient le plus de bonnes raisons, ou le plus de raisons objectives à se révolter, à protester, à contester, même sans faire la révolution, mais en tout cas à protester, qui ne le font pas. Et c'est cette question qui est un peu le fil directeur de l'ouvrage et qui se veut donc absolument pas un manuel et qui se veut aussi un travail d'enquête sociologique qui vise à prendre du recul par rapport à des représentations, même si l'intensité des grèves est limitée dans ces secteurs. Toutes les enquêtes statistiques montrent que si on compare secteur par secteur, c'est le commerce et les services qui est très largement en retrait. Il y a beaucoup moins de grèves dans le secteur du commerce et des services que dans le secteur de l'industrie, par exemple, sans vouloir faire comparaison privé-public, juste si on regarde dans le secteur privé, beaucoup moins que dans le transport. Pour autant, des grèves, il en existe, déjà, premier point. Donc l'intensité des grève ne signifie pas déconflictualisation des relations de travail. Non seulement parce qu'il reste des conflits et certains percent l'indifférence médiatique, ils les entourent habituellement parce qu'elles durent. Bon, il y a eu le conflit d'Ibis et puis dans le bouquin, je reviens, c'est la deuxième partie du livre, sur trois longs mouvements de grève qui ressemblent beaucoup à ce qui s'est passé autour du conflit d'Ibis, notamment un conflit des femmes de chambre et puis un conflit d'ouvriers de logistique situé dans une zone industrielle à Gennevilliers et puis un conflit de jeunes salariés de la restauration rapide dans le 18e d'ailleurs, si mes souvenirs sont bons. Et des grèves assez caractéristiques de ces secteurs, c'est-à-dire des grèves longues, entre un mois et quatre mois et demi pour les femmes de chambre, et puis des grèves qui illustrent à la fois toute la difficulté à faire de la grève un outil efficace alors même que tous ces collectifs dans les trois cas de figure, c'est ça qui m'intéresse évidemment, c'est pour ça que je les ai pris comme terrain d'enquête, dans les trois cas de figure, tout le collectif de travail quasiment est en grève, hein, et malgré tout, eh bien, dans ces entreprises, ça ne suffit pas à bloquer la production. Ça ne suffit pas à bloquer la production parce que c'est des établissements qui appartiennent à plusieurs établissements, donc on reporte la production ou l'approvisionnement sur d'autres centres de logistique, parce que dans l'hôtel, l'employeur utilise le droit qui lui est donné de faire appel à une société sous-traitante pour remplacer toutes les grévistes, etc. Il y a tout un ensemble de difficultés objectives. Et puis, par ailleurs, aussi, ce qui m'intéresse dans ces conflits, c'est qu'ils rendent aussi perceptibles des tensions, des ajustements qui peuvent se faire jour entre les militants syndicaux ou des collectifs militants comme les vôtres qui viennent en soutien à ces luttes et dans ce qu'ils projettent sur ces grèves, dans ce qu'ils attendent, j'allais dire en tout cas de ces grèves, dans le sens qu'ils y mettent et dans la manière dont ces grèves concrètement se font, c'est-à-dire dans la manière dont ces salariés entrent en grève, le sens qu'ils y mettent et la manière dont ils y participent ou pas. Bon, ce que j'essaie de montrer, c'est que dans ces conflits, ce qui est assez frappant, à la fois tous les salariés sont en grève et en même temps très peu font grève très concrètement, c'est-à-dire il reste chez eux. Toute la première partie du livre est aussi de mettre l'accent sur toutes les formes de conflits invisibles. Parce que malgré tout, même si ces grèves longues et dures sont symptomatiques des résistances idéologiques que le patronat de ce secteur oppose à la présence syndicale et à la mobilisation des salariés dans des entreprises qui sont assez caractéristiques de ce que le sociologue marxiste américain Michael Burawag appelle le despotisme du marché. On est vraiment sur des rapports de domination très despotiques où le patronat ne tolère pas l'existence de contre-pouvoir ou même de mettre en discussion les décisions qui sont prises. Et donc, clairement, la résistance qui est opposée, ce n'est pas du tout une résistance économiquement fondée. C'est une résistance qui se veut d'abord idéologique et qui est assez cohérente avec ce que j'ai observé par ailleurs, c'est-à-dire ce qu'on enseigne au RH dans les stages de formation de gestion et de prévention des conflits, c'est comme ça qu'on appelle. Il faut faire durer. Il faut faire durer pour que ça coûte aux salariés et pour que leur passe l'envie de recommencer. Donc, il faut que ça coûte, et il faut les user, il faut les démoraliser. Et donc, d'où là, évidemment la nécessité d'avoir des syndicats et des soutiens militants forts et nombreux pour venir en soutien à ces salariés. Mais donc, ce que je voulais dire aussi, c'est que ce que j'essaie de mettre en avant dans la première partie du bouquin, c'est ce qu'appelle Michel Perrault, l'historienne qui avait travaillé sur les grèves du 19e siècle, toute la poussière des petits conflits, c'est-à-dire toutes les micro-grèves, tous les micro-conflits qui existent. Quand j'observais en quelque sorte les activités de l'US, il n'y a pas une semaine sans qu'il y ait 2-3 grèves qui se déclenchent. Alors, c'est lié à la configuration parisienne, il y a beaucoup de salariés dans le secteur du commerce et des services. L'Union syndicale est une structure entre guillemets atypique dans le paysage de la CGT, mais voilà, pour moi, un des grands intérêts d'avoir ce temps d'observation prolongé dans la structure, c'était de voir tous ces conflits ordinaires qui échappent, j'allais dire, au regard statistique, encore plus au regard médiatique, et de manière plus large. Ça donne à voir que un constat simple, mais quand même fondamental pour poser les données du problème, que la faible intensité des grèves ne signifie pas nécessairement des salariés dociles. Patron, il y a beaucoup d'indocilité salariée, même si ce n'est pas toujours le cas. Si ces entreprises de commerce et de services fonctionnent, si le système capitaliste fonctionne dans ces entreprises, c'est aussi, on va prendre un exemple tout simple que tout le monde connaît ici, j'en suis sûr, le système de la restauration rapide, c'est aussi que le patronat trouve des salariés disposés pour partie à accepter les conditions d'emploi qui leur sont proposées, soit c'était clair dans l'entreprise que j'ai étudiée avant la grève, le boulot n'était pas perçu même comme un travail, c'était perçu comme un jeu. D'ailleurs, c'est ce que montre très bien avant moi Michael Burawag, toujours, pourtant c'est un sociologue marxiste, etc. Mais il dit, si on veut comprendre pourquoi le capitalisme fonctionne, bien sûr, le capitalisme fonctionne grâce à des rapports de contraintes, hein, et ils sont très puissants, surtout par rapport aux salariés indociles, mais c'est aussi qu'il y a une main d'œuvre disposée à jouer le jeu. Pourquoi il dit ça? Parce que lui, il montre, par exemple, dans le monde industriel, des ouvriers qui dépassent les quotas, qui dépassent les objectifs qui leur sont fixés, parce qu'ils se prennent au jeu, parce qu'ils veulent faire plus. Et après, 20 ans plus tard, il y a un collègue qui est sur les employés de McDo, il montre la même chose. Et lui-même s'est fait embaucher chez McDo, il dit, on se prend au jeu, on veut faire des burgers encore plus rapidement que ce que donnait. Il y a une espèce de petite compétition. Bon, bah là, dans la chaîne de restauration rapide que j'étudie, un des jeunes qui est lycéen, alors évidemment, ça explique aussi beaucoup de choses, c'est que c'est pas un travail de subsistance, c'est un travail entre guillemets d'appoint. Bon, lui, il trouve ça fun de faire de la mobilette à Paris. Voilà, c'est comme ça qu'il m'explique. Et puis, pareil, il y a une espèce de compétition qui s'instaure informelle entre les livreurs pour pour savoir qui, lequel trouvera le raccourci, le plus rapide, etc., etc. Donc, malgré tout, il y a des salariés qui sont disposés à jouer le jeu, puis il y en a beaucoup d'autres, non. Donc ça, c'est un point important. Si je prends le secteur de la logistique, d'autres collègues qui vraiment mènent des enquêtes très minutieuses et à la fois qualitatives et statistiques sur ce secteur, Lucas Tranchant notamment pour le citer, montrent qu'une des caractéristiques de ce secteur, c'est l'incroyable turnover qu'il existe dans ces entreprises, qui est bon, ce que le sociologue, enfin l'économiste américain Hirschman appellerait l'exit, la sortie. Hein. Il dit en gros, il y a trois manières de manifester son mécontentement en situation d'insatisfaction au travail. La voice, prendre la parole, s'organiser collectivement, bon, la grève, la manifestation, la pétition, ça peut être plein de choses, bref, le syndicat. Ça peut être l'exit, le départ, la démission, et dans ces secteurs précarisés, je dirais, un des rares avantages qu'ont les salariés, c'est qu'ils n'ont généralement pas grand-chose à perdre et quitter leur emploi, parce que c'est des secteurs en tension qui embauchent de manière récurrente, alors ils ne gagneront rien, on est bien d'accord, mais en situation de conflit avec leur employeur, c'est souvent la solution qu'ils vont privilégier, entre guillemets, tenir au travail. Troisième option, la loyauté contrainte. Loyauté contrainte, bah parce que, par exemple, on a des enfants, parce qu'on craint de ne pas pouvoir trouver un travail équivalent, etc. Donc, tout l'objet du bouquin, c'est de montrer, en fait, que c'est de chercher à comprendre à quelles conditions ces formes de conflictualité souterraine peuvent se transformer en actions plus organisées et plus collectives et plus revendicatives, et quels sont les facteurs qui les empêchent.
Elle a mis sur le mur, en face du frigo, une photo de Besancenot. Avec sa veste La Poste, elle trouve qu'il est beau au-dessus du compost. Bravo, déjà les posters dédicacés de Ruffin, je trouvais ça austère. Je dis rien, elle fait rien à moitié, alors c'est marche ou crève depuis qu'elle est en grève. Elle se réveille la nuit, veut manger des merguez, rêve de Philippe Martinez. Parfois en forêt, devant des champignons, elle crie Macron démission. Je lui dis qu'elle est belle, comme un défilé, comme un tir de LBD. J'ai même dû clôturer tous mes comptes à Genève depuis qu'elle est en grève. Elle a un nouveau tatouage, juste en bas du dos. Non, 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 à l'âge pivot. Moi, quand j'écris Anna, je mets un N en trop, ça fâcherait Bernard Pivot. Mais j'écris en gras sur son gilet jaune, liberté pour Carlos Ghosn. Je m'amuse à jouer le mauvais élève depuis qu'elle est en grève. Elle aime classe CGT, les autres c'est des pions, traite Laurent Berger de mouton. Le soir, on regarde pas une seule série, mais des discours de Krasuki. Pendant nos ébats, elle cite du Poutou, moi ça m'excite pas. J'avoue, je crois que je suis plus le premier au panthéon de ses rêves depuis qu'elle est. En vrai, elle est chauffeur, elle conduit des métros, mène les gens à leur boulot. Depuis qu'il n'y a plus de rame, il reste à la maison, je vois pas pourquoi il râle. C'est con, moi depuis un mois, j'ai le cœur en fête, vu qu'elle reste près de moi sous la couette. Je milite pour qu'il n'y ait jamais de trêve et qu'on reste toujours en grève.
Poursuivons cette émission qui donnait à entendre une interrogation sur les modalités et sur les possibilités de l'organisation de la grève par les syndicats avec Baptiste Giraud.
Alors, pourquoi ça se transforme pas plus souvent ? Alors, bien sûr, il y a les conditions économiques et sociales, la précarité de ces travailleuses, de ces travailleurs, et puis au-delà de la précarité, dans l'emploi un élément très important, c'est que ces secteurs sont aussi le lieu des réorganisations du travail et de la restructuration des collectifs de travail, ce qui est très caractéristique de ces collectifs de travail, si on les dit par opposition par exemple à ce qu'a pu être l'entreprise industrielle, sans la mythifier, sans l'idéaliser a posteriori, mais quand même, c'est des collectifs de travail soit de petite taille, typiquement dans la restauration rapide, ou typiquement toutes les grèves que j'étudie, c'est des collectifs de petite taille qui se mettent en grève. Or, statistiquement, c'est dans les petites entreprises que les grèves sont les plus rares, parce qu'on est dans des rapports de domination patronale très personnalisés, des rapports de domination patronale qu'on peut qualifier de proximité, et donc évidemment sous pression hiérarchique directe, ce qui évidemment renforce la perception du risque, se mettre en grève, ou la crainte de représailles patronales. On est, autre élément, on est par ailleurs dans des secteurs où la présence syndicale est fragile. Et donc là où la présence syndicale peut être perçue dans des secteurs où le syndicat est là depuis plus longtemps, où l'habitude de faire grève est plus ancrée dans les collectifs de travail, et où donc le syndicat peut apparaître comme un protecteur, comme une protection contre les risques de représailles patronales, tel n'est pas le cas généralement dans ces secteurs ultra précarisés par ailleurs, où un des premiers gestes que font les directions, c'est toujours tout de suite de mettre la pression sur les salariés qui se mettent en grève, de les menacer de licenciement, etc., dans des contextes où le droit du travail est fort méconnu, et le droit de la grève en particulier. Ça m'amène à un autre élément, au-delà du fait que petits collectifs de travail ou collectifs de travail très disséminés, pensez aux agents de service, aux agents d'entretien ou aux agents de sécurité, ils travaillent dans des grandes entreprises, là n'est pas la question, mais par contre, ils sont sur des sites, ils sont totalement disséminés, il n'y a pas de collectif de travail. Et ma collègue Sophie Bérou a bien montré toute la difficulté qu'il y avait dans le secteur de l'aide à domicile, justement, déjà pour les syndicats, à organiser ces collectifs de travail, parce que typiquement, il faut des lieux comme ici, déjà, pour pouvoir accueillir, faire du lien et puis maintenir un contact avec les salariés. Tâche d'autant plus redoutable que, je l'ai dit précédemment, ces secteurs sont caractérisés par un très fort turnover. Et donc, c'est une espèce de puissant fond auquel il faut s'attaquer pour ces militants syndicaux. Et donc, ça m'amène aussi, du coup, au-delà de ces obstacles, j'allais dire, liés au mode aux formes du capitalisme dans ces entreprises de services, au mode de structuration des organisations syndicales. Un élément très simple, c'est qu'en fait, la structure des syndicats, et singulièrement celui de la CGT, plus paradoxalement, enfin c'est pas un paradoxe, mais plus que celui de la CFDT qui a réfléchi et s'est adapté aux transformations du capitalisme et des structures du salariat dès les années 70-80, alors en l'accompagnant aussi de sa politique de recentrage, on est bien d'accord là-dessus, mais je pense qu'il ne faut pas que ça fasse oublier l'autre aspect plus organisationnel de la CFDT qui a privilégié, pour celles et ceux qui serait peut-être moins familier de cette organisation, le principe du syndicat professionnel territorial. Mais en même temps, du coup, vous allez voir, c'est quelque chose qui va être mis en débat à l'intérieur de la CGT. Et à mon avis, c'est plutôt une... Bon, là, c'est un point de vue engagé, hein, que je donne. C'est plutôt une bonne chose d'aller sur cette piste-là. Parce que ce qui prime et domine à la CGT, c'est le syndicat d'entreprise. C'est vraiment l'alpha et l'oméga, le syndicat d'entreprise et la fédération professionnelle. Il y a une très grande autonomie des fédérations professionnelles. Ce mode de structuration a eu toute sa pertinence par le passé, mais pose un redoutable problème aujourd'hui. Le problème, c'est que ce qui caractérise le tissu productif, c'est qu'il s'est considérablement éclaté. La désindustrialisation s'est accompagnée d'un morcellement incroyable du tissu productif. Dans un terrain de thèse, dans l'UD du Nord, ils sont passés pour une même UL de 100 syndicats à devoir coordonner à 1000. Voilà, très, très concrètement. Et donc, évidemment, c'est impossible en fait, de coordonner l'activité de 1000 syndicats d'entreprise, surtout lorsque vous êtes impermanent ou dans le meilleur des cas. Hein, et sinon, c'est les militants retraités qui continuent à donner de leur temps et de leur énergie militante pour animer les unions locales. À ces transformations des structures du salariat s'ajoute un autre élément qui a produit des effets très pervers pour le syndicat. D'un côté, alors, on le défend et on a raison de le faire d'un point de vue militant, mais c'est la décentralisation de la négociation collective et donc le développement des droits syndicaux à l'intérieur de l'entreprise. Donc j'ai d'un côté, évidemment, lorsque passe le CSE, on est à peu près toutes et tous d'accord pour défendre l'existence de droits syndicaux dans les entreprises, mais l'effet pervers de ce modèle d'organisation du droit syndical, c'est que ça aboutit à donner pas mal de ressources en tout cas, aux militants syndicaux là où ils sont présents. Bon, dans les grosses entreprises, on peut pas dire que les syndicats sont démunis. C'est pas vrai. Il y a du droit syndical, il y a des salariés mis à disposition, il y a des moyens techniques, financiers, humains, pour, j'allais dire, faire tourner les boutiques syndicales. Mais en revanche, Ça veut dire que tous les petits syndicats, quand je dis petits, ça veut dire en termes d'ancrage militant, tous les petits syndicats sont très démunis. Très démunis en ressources militantes, très démunis en ressources institutionnelles, alors même que c'est eux qui sont confrontés aux directions les plus réfractaires à la présence syndicale. Là où une habitude s'est créée, alors bon an, mal an, hein, c'est pas né comme ça, c'est aussi l'héritage, on peut dire, des luttes syndicales, mais dans les grandes entreprises, les services RH savent qu'ils doivent composer avec les syndicats. Voilà, ça veut pas dire qu'ils cherchent pas à les affaiblir, etc., mais ils vont pas s'amuser en permanence à faire des entraves au droit syndical parce qu'ils savent qu'en face, ils vont saisir le droit, ils vont saisir... Bon, bref. Donc, il y a une forme de dissuasion. Je veux dire, la présence syndicale crée des formes de dissuasion. Et à cela se rajoute un des éléments qui est clé, et d'où j'en viens à l'explication du titre, qui est clé dans ces entreprises du secteur et des services, c'est aussi que beaucoup de ces militants sont des militants qu'on peut qualifier de novices de l'action syndicale. Ils sont très symptomatiques. Alors, ça ne concerne pas du tout que le secteur du commerce et des services, mais ils sont symptomatiques d'une tendance beaucoup plus générale qu'on observe et qui touche maintenant en plus les secteurs traditionnels aussi du syndicalisme. Hein. Nul n'y échappe, mais de ce qu'on peut appeler la dépolitisation du syndicalisme. Ce qu'on appelle, nous, en sociologie, par dépolitisation du syndicalisme, c'est alors non seulement le fait que les directions syndicales, les organisations syndicales ont pris leur distance par rapport au champ politique, revendique une indépendance, je dirais pas neutralité, hein, mais indépendance par rapport au champ syndical, ça c'est une chose. Mais ce qui m'intéresse encore plus ici, ça veut dire que on veut surtout dire par là qu'il s'agit de militants qui n'arrivent pas au syndicalisme pour des raisons politiques ou sur la base d'une socialisation politique au syndicalisme. Bien sûr, il en existe parmi eux. Bien sûr, hein, dans l'union syndicale, on croise des militants syndicaux qui sont, qui sont syndicalistes par héritage, je veux dire par héritage familial ou par leur entourage proche, qui tout de suite ou presque ont adhéré en même temps qu'ils ont été embauchés, qui ont fait le choix, j'allais dire, idéologiquement fondé de la CGT, etc. Mais l'immense majorité sont venus au syndicalisme, je dirais pas par hasard, mais par le jeu des circonstances. D'abord en réponse aux représailles ou aux répressions individuelles qu'ils vivaient dans leur entreprise. Et ensuite, se sont adressés à la CGT. Mais ça, alors ça c'est quelque chose qui revient tout le temps dans les entretiens qu'on fait. Ça aurait pu être, ils disent toujours, ça aurait pu être CFDT, ça aurait pu être FO. C'est lié, sans doute, c'est un des avantages comparatifs dont dispose la CGT par rapport à la CFDT, c'est les unions locales, justement, qui sont des points de repère, des points d'entrée pour tous les salariés isolés ou les adhérents isolés. Ou par l'image combative que peut avoir la CGT qui peut inciter des salariés à se tourner vers ses permanents pour être aidés. Et en même temps, et j'y viens, du coup, il y a pour tous ces militants, il y a un travail de réapprentissage de la grave affaire, d'où le premier sens du titre qui a donné. Donc moi, c'est pas l'idée de dire moi, je vais vous expliquer comment vous devez faire grève, mais parce que le cœur du bouquin, c'est de montrer comment les permanents de cette union syndicale, les deux permanents et demi, ils sont trois, mais il y en a un qui partage son temps de travail entre l'US et l'UD, à l'époque en tout cas, la CGT, comment ces permanents accomplissent ce travail d'acculturation, de socialisation des militants à la pratique de la grève. Et j'essaye de montrer dans ce livre, et c'est là où j'essaie de combattre une mythologie syndicale, qu'effectivement, ils peuvent être indociles, ces salariés. Ils ne sont pas du tout dans un rapport d'abandon, de résignation par rapport à leur employeur. Ils sont pour la plupart fermement décidés à faire valoir leurs droits, à faire défendre leur dignité. Pour autant, ça n'en fait pas des militants disposés naturellement à faire grève. Et c'est un point sur lequel j'insiste beaucoup. C'est-à-dire, moi, j'ai été frappé dans mon enquête à quel point y compris donc auprès de militants de l'union de la CGT, des militants d'entreprise, combien il pouvait y en avoir qui étaient eux-mêmes très hésitants, très réfractaires à la pratique de la grève. C'est l'objet de mon premier chapitre, de montrer que beaucoup de ces syndiqués viennent d'abord au syndicat pour défendre leurs droits et ont un usage et ont un rapport syndical que je qualifierais de juridiquement normé, c'est-à-dire que le syndicat est pensé comme la clé d'accès aux droits et que l'outil pour se défendre face à l'employeur, et ça se comprend dans ces secteurs où, j'allais dire, les entraves aux droits du travail sont monnaie courante, hein, c'est l'idée que le droit, c'est d'abord par le droit qu'on va pouvoir se défendre. Et ça se voit d'ailleurs dans les formations syndicales. C'est-à-dire, on voit tous les effets de réassurance que ça produit, tous les effets d'incitation à l'action que produit chez ces militants, l'accès à la connaissance du droit, l'accès aux ressources que le droit leur offre pour s'opposer à leur direction, pour leur poser tout simplement des limites, pour poser des limites au caractère despotique du pouvoir patronal qu'ils affrontent. Pour autant, passer du droit à la grève, alors à la fois ce travail d'apprentissage du droit est un levier indispensable pour faire de ses adhérents des militants, pour leur donner confiance, pour leur faire connaître leurs droits et leur donner des raisons de s'engager dans leur mandat. D'un autre côté, l'effet pervers, c'est que ça peut aussi avoir un effet limitant, le droit. Limitant d'un point de vue revendicatif, c'est-à-dire se borner, ou en tout cas penser que l'objectif du syndicat, c'est revendiquer l'application du droit. Alors, ce qui est une première étape, encore une fois, j'insiste dans ce secteur, mais justement, tout le travail, de pédagogie militante qui est accompli dans cette union syndicale, c'est d'essayer de faire partager auprès de ses salariés militants l'idée que l'objectif, ce n'est pas simplement de réclamer ses droits, c'est une première étape, mais c'est aussi de conquérir de nouveaux droits, ou bien, pour faire le lien avec la retraite, de défendre aussi les droits sociaux, collectifs, hors du monde du travail. Et deuxième objectif de ce travail de pédagogie militante, d'essayer de faire partager l'idée qui ne va pas de soi nécessairement que le rapport de force avec l'employeur ne se construit pas simplement par la connaissance du droit, mais aussi par la construction d'un rapport de force collectif avec son patron. Et donc ça implique à la fois un travail de pédagogie militante et un travail de réassurance militante. Et donc j'insiste beaucoup dans le bouquin sur l'utilité, la nécessité de la présence des militants syndicaux, des permanents syndicaux, pour le coup expérimentés, des vieux routiers de la grève, si je puis dire comme ça, pour justement accompagner tous ces militants dans les premiers pas de la grève. Comment ce travail syndical produit des effets, hein, il ne s'agit pas de dire ça ne sert à rien, il produit des effets, mais il rencontre aussi des limites. Alors, il rencontre des limites, pour trois raisons. Alors, bien sûr, on peut mettre en question les stratégies des directions syndicales, bien sûr. Je renvoie là-dessus à une interview que j'ai donnée au site Rapport de Force. C'est des questions qui sont tout à fait légitimes sur la critique de la bureaucratisation syndicale, etc., etc. Mais je pense que si on s'arrête là, on loupe des choses. En tout cas, on ne voit pas le problème dans toute sa complexité. J'ai envie de dire, si c'était que ça, on serait plutôt dans une meilleure posture actuellement. Il y a d'autres limites. D'autres limites qui viennent d'abord, à la fois, j'essaie de montrer à quel point les ressources du syndicat, en termes de permanents, d'expérience, de solidarité militante qui peuvent se construire, sont un point d'appui essentiel pour favoriser l'éclosion de ces grèves et surtout, quand elles doivent durer, pour les tenir dans la durée. De l'autre, j'essaie de montrer aussi que ces ressources, elles sont limitées. Elles sont limitées dans l'ampleur des solidarités militantes que la CGT est en capacité, malgré tout le travail, toute l'énergie que ces permanents mettent, pour faire venir d'autres militants au rassemblement de soutien, pour tenir les piquets de grève, etc. Très vite, ça s'effiloche. Et très vite, on est quand même très, très peu, je dis on parce que je les accompagnais, on était quand même très, très peu nombreux sur le piquet de grève. Et donc ça renvoie au désajustement de la structure du syndicat. Bon, quand même, un des éléments saillants de mes observations, c'est de pointer l'absence des gros syndicats, des grosses structures du public. Un truc assez récurrent qui renvoie au corporatisme d'entreprise qui existe, y compris dans ces gros syndicats, qui renvoie aussi à des enjeux de rivalité, et des luttes de concurrence entre structures des UL, structures de l'union syndicale. Quand j'allais voir les permanents des UL en leur demandant « Mais pourquoi vous n'êtes pas plus ?»« Ouais, mais ça, c'est le conflit de l'US, nous, on ne peut pas tout faire, on est déjà occupé à accueillir les salariés, etc. 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 » Bon, donc ça renvoie aussi à une question très stratégique, mais qui dépasse de mon point de vue la question de la bureaucratisation syndicale, qui renvoie à la question de la mutualisation des ressources à l'intérieur d'une confédération comme la CGT. C'est pour ça que je dis, a priori, la nouvelle équipe confédérale a l'air décidée à remettre sur le tapis la question, en tout cas a priori, des structures. Je pense que c'est ultra compliqué, parce que le fédéralisme dans la CGT est un frein et un obstacle à beaucoup de réformes, mais il semblerait quand même qu'il y ait au moins la question de la création de syndicats départementaux professionnels. Donc l'idée que des salariés d'une même profession, d'un même secteur, s'organisent par section mais adhèrent à un même syndicat. Ça a beaucoup d'avantages, c'est le fonctionnement de l'US. Ça a des avantages, ça a sans doute des inconvénients, mais ça a pour avantage que ça permet de mutualiser les cotisations, ça permet aux militants de se rencontrer, de partager, donc de créer des sociabilités militantes élargies, de sortir ces militants de leur isolement. Et je pense que c'est déjà un premier pas colossal pour ces militants qui sont souvent fragiles, qui ont peu d'adhérents par la force des choses, qui sont très isolés aussi par la force des choses s'ils sont organisés en syndicats d'entreprise. Et c'est un autre avantage aussi, c'est que ça permet quand même aux structures territoriales d'être plus en lien avec ces militants, parce que c'est un autre frein que j'illustre dans le livre. La difficulté, une des limites sur lesquelles bute le travail militant, c'est que pour beaucoup de militants d'entreprise, les liens avec les structures territoriales sont très distants, très lâches, très au sens très ponctuel, hein, je veux dire. Et donc, pour en venir aussi à une question qui vous intéresse, lorsque l'Union syndicale cherche à relayer un mot d'ordre pour une journée d'action professionnelle ou interprofessionnelle, bon, il y en a un qui me dit en rigolant, je passe mon temps à appeler des militants que je ne connais pas, quoi. Donc, je ne me rappelle plus trop, lui ne me connaît pas non plus. Et bon, un des grands acquis de la sociologie des mouvements sociaux, qui dépasse largement la sociologie du syndicalisme, c'est qu'un des facteurs d'incitation à participer à des mobilisations, quelles qu'elles soient, locales ou interprofessionnelles, c'est le réseau d'interconnaissance, c'est le fait d'être sollicité par quelqu'un de proche qu'on connaît. Bon, si, je pense qu'ici on va tous en manif. Si on va en manif, c'est aussi quand même plaisir à retrouver les copains, que c'est un moment qu'on partage. On ne manifeste pas tout seul. Je pense que ça serait important de réfléchir à de nouvelles structures. Pour autant, ça marche pas sur tous les militants, sinon ça serait trop beau ou trop simple. Voilà, pour beaucoup de militants, le rapport à l'union syndicale comme à l'union locale, il reste, je dirais, un rapport instrumental. C'est-à-dire, on fait appel au permanent lorsqu'on a un protocole d'élection à renégocier, lorsque on est menacé d'une sanction, lorsque on est bloqué avec son employeur et qu'on hésite, qu'on ne sait pas trop et qu'on fait appel à l'expertise juridique et militante du permanent. Et puis, pour terminer, il y a un troisième élément, une troisième limite, c'est que la transformation de la socialisation de ces nouveaux militants à l'action syndicale, elle produit aussi des effets, j'allais dire, de désajustement, de déconnexion parfois, entre leur manière d'investir le syndicat, la revendication, la grève, par rapport à la pratique de la grève telle qu'elle est promue, pensée, idéalisée, mais au sens propre et noble du terme, par la CGT. Ce que j'essaie de montrer dans le bouquin, c'est qu'en fait, il y a différentes manières de faire grève. Il y a la grève, je veux dire, révolutionnaire ou politique, qui peut être investie, pensée, avec des objectifs politiques de transformation de la condition salariale, pour faire les choses de manière très simple, et des grèves qui se déclenchent dans ce secteur, qui sont plutôt qu'on pourrait appeler des grèves de dignité, où les ressorts de l'engagement dans la grève ne sont pas des ressorts politiques, sont des ressorts moraux. Ce que ce secteur illustre aussi, c'est la crise ou en tout cas les métamorphoses du capitalisme et la crise du capitalisme paternaliste en particulier. Mais les trois conflits que j'étudie dans la deuxième partie de l'ouvrage en sont très révélateurs. Je ne l'ai pas dit, mais j'ai pris ces grêves aussi parce que c'est la première fois qu'une grève se déclenche dans une entreprise. C'était ça qui m'intéressait, hein, comment des salariés font la découverte de la grève et pourquoi ils se mettent d'un coup, entre guillemets, à faire grève. Et donc, je terminerai là-dessus et ça illustre les mêmes contradictions qu'un de mes collègues, Samuel Hayat, a observé sur les gilets jaunes. C'est-à-dire que ce n'est pas sur des bases de transformation. Ce que réclament ces salariés, et c'est pas pour ma part pour les délégitimer, c'est pas ça, hein, mais le constat qu'on peut faire, c'est dans l'idée de restaurer le pouvoir patronal ou en tout cas le fonctionnement de l'entreprise tel qu'il était au préalable, là où les militants qui investissent en soutien à ces conflits, qui viennent de l'US ou qui viennent des collectifs extérieurs, là-dessus, il n'y a pas de différence notable, sont dans l'idée aussi de transformer, hein, de dénoncer la précarité de ces salariés, juste pour vous faire sourire, mais comprendre ce que j'essaie de dire. C'est à la faveur de la grève, alors on peut dire que c'est un des acquis de la grève, mais c'est à la faveur de la grève que les salariés de la chaîne de restauration rapide découvrent qu'en fait, ils avaient des avantages, que le syndicat avait obtenu quelques avantages. Bon, c'était pas grand-chose, mais c'était le paiement des chaussures de sécurité pour les ouvriers, les employés des cuisines, sur le fait que les mobilettes devaient être équipées de pneus antidérapants, etc. Bon, tout ça, ils ignoraient. Et donc, ils découvrent. Et donc, et tout l'apprentissage des militants, c'est leur dire, vous ne devez pas être en grève uniquement pour essayer vos copains. Vous devez être en grève aussi pour défendre vos avantages sociaux et en réclamer d'autres. Sauf que c'est pas si simple et ça se fait pas vraiment là-dessus. Et donc, ce que j'essaie de montrer aussi, c'est que ces grèves, elles sont à la fois l'occasion d'apprentissage militant, hein, mais qu'elles sont aussi, elles illustrent la difficulté à faire cette modalité d'action à des grèves victorieuses. Alors c'est pas très enthousiasmant le bilan des luttes que dans cet ouvrage, parce que pour la restauration rapide, bah, les salariés vont rien obtenir, ils vont juste obtenir le paiement des jours de grève. Pour les femmes de chambre, elles obtiennent en tout cas à ce moment-là le retrait de la 14e chambre, mais en échange elles acceptent plus de flexibilité. Bon, mais le syndicat pouvait plus soutenir, la trésorerie était à bout, enfin là il y avait vraiment un problème, le soutien militant était très 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 effiloché, donc le syndicat était contraint à trouver une sortie. Et pour les ouvriers de la logistique, c'était au moment des négociations annuelles obligatoires. Alors il n'y a pas rien, il y a 1,5% d'augmentation qui est consenti, ce qui n'est pas rien. Depuis 2 ans le syndicat n'avait rien obtenu, mais en même temps, ça n'a pas été à la hauteur de ce que le syndicat portait. Et surtout, ce qui m'intéresse dans cette grève, c'est de montrer à quel point il y a des tensions tout au long de la grève sur qu'est-ce qu'il est légitime et juste de revendiquer entre les grévistes, entre les permanents syndicaux. Et donc, ça sera mon mot de conclusion. Réapprendre à faire grève, c'est aussi pour le syndicat. C'est-à-dire que dans ce contexte-là, le syndicat, en tout cas, un syndicat comme la CGT, mais ça vaudrait pour Sud, etc., pour les syndicats combatifs, ça implique aussi de savoir ajuster, adapter la stratégie de la grève aux réalités de ce salariat-là. Comment on rend la grève plus efficace et comment on s'adapte aussi dans la manière de faire grève aux réalités de ce salariat. Parce que ce qui ressort beaucoup, un permanent dit, on peut pas y aller comme des bourrins dans ces secteurs, sinon on effraie les salariés. Hein, si on arrive, et c'est ce que disent d'ailleurs plusieurs militants, ils disent, je préfère venir à l'Union syndicale parce que l'Union syndicale, les mecs sont super et tout, mais ils ont l'habitude des grosses boîtes, parce que les permanents qui siègent, qui animent, c'est le DF, c'est SNCF et tout. Et il y en a un qui me dit, ouais, je suis arrivé, j'avais un problème avec mon patron, le secrétaire me dit première chose, il me dit grève, et grève chez moi c'est pas possible, ça lui fait peur quoi. Hein, et donc il préfère être en contact de l'US qui a plus l'habitude, j'allais dire, de gérer cette distance objective, militante, sociale, qui les sépare de ses salariés et qui réfléchissent à comment eux aussi réapprennent à faire grève. Donc c'est dans ce double sens, pour répondre à ta question initiale, qu'il faut entendre le titre de l'ouvrage et non pas autre chose. Voilà.
Moi j'ai eu mon déclic militant, je suis conducteur de bus à la RATP au centre bus de Malakoff depuis 2009. Et je me suis syndiqué que fin 2020, après le mouvement des retraites. Donc j'ai mis plus de 10 ans à m'engager syndicalement. Et je trouve que ça aurait été bien. Au contraire, j'aurais pas du tout mal pris le titre « Réapprendre à faire grève », ou même « Apprendre à faire grève », parce que c'est pas du tout enseigné. Ça dépend des syndicats. Mais c'est-à-dire qu'on a un outil qui est incroyable. Je l'ai su, je sais pas, il y a peut-être 2-3 ans, les congés de formation économique, sociale, écologique et syndicale, où un syndicat a le droit de 18 jours. Je mets au défi les gens de me dire « Tous mes syndicats ont utilisé leurs 18 jours ». C'est faux. Les gens, ils utilisent un jour, deux jours, trois jours. Et c'est ceux qui ont des mandats, qui, parce qu'ils vont faire des formations CSCT, qui vont les fumer leurs jours. Mais sinon, et d'ailleurs, on fait souvent les choses à l'envers. C'est d'abord on a un mandat et après on se forme au mandat. Alors que la logique pour moi, c'est d'abord on apprend. On voit parmi les stagiaires ceux qui ont un peu la fibre et on dit « Bon, bah toi, on te mettra tête de liste à la CSCT », des choses comme ça. Enfin, moi, c'est le fonctionnement que j'aurais eu. Et donc, oui, voilà, il y a une grosse crise du syndicalisme où moi, très rapidement, je suis passé secrétaire de section, mais parce que c'était un désert et que y a aussi un problème de culture politique. C'est-à-dire que, voilà... Moi, avant de militer syndicalement et politiquement, 1871, si j'avais un QCM, je pensais que c'est une marque de bière, hein, je sais même pas, c'est la commune de Paris, c'est, voilà, tu mets le choix en réponse marque de bière, je coche marque de bière, je me dis ouais, ça sonne bien. Ouais. Et en fait, bah, il y a zéro culture, la notion de classe, etc. Et j'étais choqué dans ce documentaire en 3 parties. Où ça commence par des micro-trottoirs où il interroge la population chilienne sur leurs prévisions sur le score électoral, etc. Et j'étais choqué du vocabulaire qu'avaient les Chiliens dans les années 70 par rapport à nous aujourd'hui, où ils avaient vraiment un discours de classe. Ça parlait de prolétariat, des mots que j'entendais pas, moi. Enfin, je suis né à Paris, j'ai grandi à Paris. Si on n'a pas une culture marxiste, etc., même le terme bourgeoisie, il fait très vieillot, quoi, je ne l'entends pas. Bureaucratie, c'est des termes qu'on n'entend pas. Et que, du coup, on le voit avec le mouvement des Gilets jaunes, où beaucoup de gens autour de moi qui se revendiquaient Gilets jaunes, quand je leur demandais, c'est quoi pour ça un Gilet jaune, souvent la réponse que j'entendais, c'est le peuple. Mais oui, mais le peuple, ça, tu mets Bernard Arnault dans le peuple aussi, il est dans le peuple, il fait partie du peuple. Ceux qui votent Macron, c'est quoi, c'est des martiens? Non, ils sont du peuple. Et mais parce qu'on n'a pas le mot... Alors que si on dit prolétariat, là déjà, on élimine pas mal d'ennemis. Ou les Français, les citoyens, voilà, c'est des termes un peu qu'on utilise, mais qui ne sont pas en fait les bons termes pour bien définir précisément ce qu'on veut dire. Je sais quand la personne dit le peuple, elle pense pas à Macron, mais c'est pour dire qu'il y a un manque de vocabulaire, de formation politique. Et on le voit, heureusement qu'il y a les retraités dans les unions locales, parce que déjà qu'elles sont pas ouf. Elles sont certaines ouvertes un jour par semaine, etc. C'est difficile d'avoir quelqu'un. Ben heureusement qu'il y a les retraités qui donnent de leur temps, sinon c'est mort. Et oui, je suis d'accord qu'il manque un vrai outil au service de notre camp pour... C'est pas une honte, ouais, pour apprendre à faire grève, pour apprendre à faire plein de trucs.
Moi, j'ai été à la RATP pendant plus de 30 ans. Alors, j'étais conducteur. Quand j'entends le collègue, là, je me dis, c'est un autre monde. C'est vraiment un autre monde. Le changement s'est fait dans les années 90. Les jeunes qui rentraient ne comprenaient pas pourquoi on faisait la grève, par exemple, pour défendre... des horaires, pour défendre des tableaux de service, alors certains arrivaient d'un autre emploi, ils avaient travaillé un an ou dans un autre endroit, le salaire, les conditions de travail, pour eux, c'était très bien. Donc, pourquoi faire grève? Petit à petit, ça s'est installé, on avait de plus en plus de difficultés, parce que nous, on faisait de l'information syndicale sur le terrain. On avait d'ailleurs, c'était prévu, une heure d'information syndicale tous les mois, qui était prévue dans les locaux de la RATP, quoi. Et on parlait pas que de problèmes syndicaux, pas que de papier dans les toilettes, hein, parce que... Bon, bref, on parlait politique. On était politisés. Et on continuait, nous, à transmettre ce que les anciens, eux, nous avaient appris, nous avaient transmis. Et on essayait de le continuer, nous. Mais il y a eu aussi le discours des partis politiques sur le plan national qui ont dilué ce rapport de classe. Quand on parlait de lutte de classe, on nous disait des fois « Oui, mais attends, ça c'est du passé. » Déjà à cette époque-là, vous êtes un peu ringard avec ça, nanana, nanana. Mais et pourtant, on insistait. Hein, la lutte de classe, d'ailleurs, on la prend en pleine figure là en ce moment. Hein. Donc... on n'en est jamais sorti. Mais les jeunes, eux, ont cru être sortis de ça. Et puis, il faut dire que le gouvernement socialiste, il a mis le paquet. Hein. Je suis désolé de dire ça comme ça, mais au secours. Hein.
Par rapport à ce qu'on est en train de dire, c'est peut-être qu'il faut justement se dire qu'on veut faire la révolution. Parce que quand tu parles de rapport de force et de créer un contre-pouvoir, c'est que finalement, tu viens de le dire, c'est pour avoir le même pouvoir que ceux qui sont en face de nous. Donc ça veut bien dire qu'on veut en arriver à des coopératives et à un rapport égal. Et donc c'est une vraie révolution en fait. Je dis ça parce que c'est un peu ambigu, mais dans les gens aussi qui ne font pas grève, il y en a qui disent que ça sert à rien, parce que ça n'a jamais rien donné finalement, les manifs, les grèves. C'est aussi quelque chose qu'on entend, parce que ce rapport social, il n'est pas renversé en fait. Donc voilà. Et juste pour revenir aussi sur les gilets jaunes, quand tu disais sur le peuple, dans les gilets jaunes, il y avait vraiment de tout. Et oui, c'est le peuple, mais c'est dans le sens de justice sociale et justice fiscale, et c'est là où on peut se reconnaître. Et j'avais une question aussi par rapport à vos... Quand vous parliez des gilets jaunes qui n'étaient pas là consciemment pour de la transformation sociale, mais par contre, les gilets jaunes, ils ont dit clairement, on ne veut plus de ça et on va aller sur l'Élysée parce que ça suffit. Alors, il n'y avait pas toute cette culture et de volonté de vision politique, mais n'empêche qu'ils ont fait peur. Et ce qu'il y a dans les syndicats, c'est qu'il y a peut-être toute cette vision, cette volonté, mais que finalement, c'est une discussion qu'on a eue à Ne tournons pas la page, c'est comment garder en fait cet équilibre entre la flamme insurrectionnelle et la vision politique.
simplement pour vous dire que ce qui vous attend, c'est ça peut être à la fois quelque chose de ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat!
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous de leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous de leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Régors chaque semaine sur les Colligarigues à Montpellier, Canassus à Toulouse et bien évidemment Radio Grenouille.